Et Audrey Pinchot. Un marceau tout seul, c'est correct. Open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
10h01, salut, bon mardi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, en espérant que vous ayez passé un bon début de journée avec la gang de Reg. Audrey Pinchot qui est en studio, qui semble être heureuse aujourd'hui. Un deuxième jour, retour au travail après de longues vacances. T'as de l'air brûlée, c'ti.
Hey, non, mais c'est du coup... C'était fatigant de pas faire grand-chose. Je suis vraiment contente d'être retournée dans la routine. Non, ça va très bien aujourd'hui, toi.
Ouais, le danger quand on est en vacances, c'est de modifier ses heures de sommeil puis de faire des sommes pendant la journée.
Ouais.
Ce qui fait en sorte que la semaine d'après, quand tu reviens à job, t'es fessé bien raide.
Bien, je l'ai fait un peu dans la première semaine, puis après ça, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit qu'il fallait peut-être que je revienne sur un horaire un peu plus normal, mettons.
Ouais. Puis là, ça va?
Oui, ça va super bien, pour vrai.
Parfait.
D'habitude, je suis le genre de personne que la température affecte beaucoup. Il fait vraiment lettre aujourd'hui.
Il fait lettre.
Mais non, full énergique, la vie est belle.
4 degrés sur Québec présentement. Est-ce que ça va se réchauffer? La réponse, c'est oui. Maximum de 10 pour ce qui est d'aujourd'hui. Pluie intermittente. Demain, mercredi, pluie intermittente. Maximum de 17. La neige va fondre.
Oui.
Maximum de 17. Nuageux pour ce qui est de jeudi. Maximum de 7. Et vendredi, ce sera nuageux avec 30% de probabilité d'averse avec un maximum de 6 degrés. Ils sont venus poser les poteaux de déneigement. Chez nous?
Oui, moi aussi, je les ai, là.
Pour être sûr de délimiter, là, tu sais, quand il y a des grosses tempêtes de neige, je ne vois pas nécessairement ton stationnement puis l'aménagement qui a été fait autour. L'année passée, je me suis fait péter une marche.
Arrête!
Oui, et c'est pas grave, c'est une pierre, là. Mais c'est plate, là. Mais je suis tout le temps curieux de savoir comment lui l'a ressenti dans son camion, tu sais, quand tu rentres là, bang!
C'est ça, tu le sais, là. Tu sais que tu viens faire de quoi qu'il fallait pas, là.
Ouais, tu dis juste, j'espère que j'ai pas brisé rien, mais ça doit pas être évident. Je sais qu'il y en a qui font les chenilles au centre-ville de Québec. Ouais. Ça, quand j'étais bébé, là, j'ai regardé passer, puis je me disais, moi, c'est ce que je veux faire.
Arrête
dans la vie
donc,
plus
toi.
Tard. Oui.
Mais...
Jusqu'à temps que j'en vois un passer au travers de la fenêtre. Hey, c'était pas drôle.
Oh non! J'aimerais ça, par exemple, moi, passer une journée avec eux autres.
Ouais. Je sais pas comment ils se sentent dans petite chenillette. Là, au début, ça doit être vraiment nice, là, mais après 2-3 heures, ça a pas l'air d'être les bains les plus confortables.
Ça a l'air long.
Ça a l'air vraiment long. Mais quand j'étais bébé, j'ai regardé passer, puis c'était ça que je voulais faire de ma vie. Puis à un moment donné, sur la rue Bigaouette, il y a un gars qui était en train de faire le déneigement avec sa chenille. Visiblement, il allait trop rapidement puis il connaissait pas nécessairement le terrain. Fait qu'il a pogné comme la dernière marche qui est en ciment, là, qui la donne sur le trottoir, puis il est passé au travers de la fenêtre. C'était dans les années, autour des années 90.
Il faut vraiment que tu sois formé pour faire ces affaires-là, mais
oui, puis il faut que tu aies une bonne mémoire. Surtout une bonne mémoire, parce qu'il faut que tu te souviennes de quoi ça a l'air quand il n'y a pas de neige.
Oui.
C'est capoté, là.
C'est débile comme job.
T'as-tu des contrats de neige chez vous, toi?
Oui. Mais
t'as-tu
moi, c'est pas
augmenté
ben,
cette année?
Ben, je vais être honnête avec toi, là, nous autres, on loue chez nous, puis tout est comme compris là-dedans. Fait que je sais pas exactement combien ça nous coûte.
Fait que c'est pas toi qui paye.
C'est pas moi qui paye. C'est moi qui paye au bout du compte, oui. C'est pas moi qui fais
le
contrat direct,
loyer, ouais,
là, exactement. Là. Je suis certaine, il n'y a pas de job compliqué chez nous, là, puisque moi, je veux dire, la moitié de mon entrée est prise par un abri tempo. Puis, je veux dire, il est délimité par un char après. Fait qu'il y a littéralement un mouvement de gratte à faire. Puis, je veux dire, c'est terminé. Le reste, on s'en occupe nous-mêmes. Là.
Ouais. Moi, ça fait 3 ans à peu près que j'habite dans cette maison-là. Puis, j'ai toujours eu un excellent service de la part de mon déneigeur. Seul problème, puis je me dis, je vais-tu le rappeler pour y dire, c'est que j'avais un gros abri tempo qui pouvait contenir, mettons, 4 véhicules.
Oh mon Dieu, qu'un géant, là.
Puis, il y avait un espace devant l'abri tempo qui arrivait jusqu'à la rue qui était à peu près... De deux mètres et demi à peu près. Fait que c'est quand même un bon espace qui devait déneiger. Puis il m'avait chargé 450$ pour l'hiver. Juste pour ce petit coin-là. Puis là, ben mon abri tempo, je le trouvais un peu magané. Puis j'étais écœuré de le monter année après année. Puis je me suis dit, garde, je vais faire le stationnement à la grandeur. Puis c'est pas grave, on a un peu de neige sur la voiture. Pas si grave que ça. Fait que j'ai enlevé l'abri tempo. Puis il m'a chargé quand même le même prix. 450$.
Oh, ouais. Ah, mon Dieu. Mais d'après moi, c'est pris par entrée sans... Il ne calcule pas ce que tu as à faire faire.
Ah, ben oui, ben non, il calcule le périmètre, bien entendu.
Tu penses?
Ben oui, mais sinon, tu aurais même pris quelqu'un qui a un aréna, mettons.
Mais non, mais dans le sens que... Non, mais je te parle au résidentiel. Là, dans le sens que ton entrée, on a tout à peu près la même grandeur d'entrée. Là.
Ouais, mais moi, il me... Ah, ben, écoute, peut-être que c'est toi qui as raison.
Mais ça vient compliqué en tabarnouche.
Parce que moi, il avait été voir sur Google Maps. Là. Il m'avait dit, c'est quoi votre adresse, M. Marceau? Puis là, j'avais donné mon adresse. Puis là, il dit, OK, ben pour vous, ça va être 450. Y a-tu un abri tempo? Oui, parfait. Fait que t'as peut-être raison. Il l'avait peut-être déjà calculé sans abri.
J'ai l'impression que c'est
ça. Moi, je pensais que je faisais une bonne affaire.
Ouais, non, tu t'es fait fourrer, mon ami.
Mais ça n'a pas augmenté pour moi cette année. Certains déneigeurs ont augmenté ça de 10 %. Puis c'est toujours compliqué de savoir comment c'est calculé là, le montant du déneigeur qui charge.
Oui, puis c'est plate, on est un peu dépendant, tu sais, dépendamment de votre horaire aussi, mais c'est pas tout le monde qui a le temps de se taper ça eux-mêmes. Puis les grosses bordées qu'il y a pendant la nuit, si tu te lèves tôt, t'as pas le temps de te taper ça non plus à 6 h le matin.
C'est ça. Puis moi, comme j'ai des horaires atypiques, je veux pas que ma blonde elle m'appelle quand j'étais au bureau pour dire « Je suis pris, viens me prendre! » Même j'étais au bureau, si je fasse. Ça, vous l'avez tous déjà vécu.
C'est pourquoi je garde mon chum. Moi, je garde mon chum parce qu'il est prévoyant à ce niveau-là.
Oui, c'est ça.
Mon chum, quand tu sais que je vais être pris parce qu'il part avant moi le matin, il s'arrange pour me faire un trou pour être sûr que je puisse sortir comme ça. J'ai jamais appelé personne en panique.
OK, mais tu l'as fait au début.
C'est un homme à marier. Ah non, il le fait encore.
Oui, mais au début, tu l'as fait, tu l'as appelé pour dire hey, « j'ai tel problème, tel problème. »
J'ai jamais eu à le faire, il me connaît.
Il a toujours été avenant.
Ben, il a été avenant, c'est-tu pourquoi? Mon chum est très... chez eux, ils sont bien vendus. Il faut que ça soit quatre roues motrices. Là. Fait que souvent, les Subaru sont toutes quatre pattes. Ils sont très, très vendus. Puis moi, j'avais un auto qui était juste deux roues motrices. Ce qui fait que je restais pas mal pognée partout. Puis nous autres, on habite comme un peu dans le champ. Là. Fait que je pense qu'il prévoyait en ce sens pour moi. Non, je pense que c'était bienveillant. Il l'a toujours fait. Okay.
Moi, c'était pas ça pantoute, là. C'était juste que je voulais pas qu'elle m'appelle parce qu'elle aussi a des horaires atypiques. Des fois, elle travaille de la maison, des fois, elle part un peu plus tard le matin. Fait que ça me tentait pas qu'elle me dise là, je suis pris, qu'est-ce que je fais. Fait qu'avec un déneigeur, surtout ça, là que j'ai, je trouve ça exceptionnel. Puis c'est une paix d'esprit. Mais il y a plein de gens qui disent voyons, c'est donc bien cher le déneigement, puis ça. Puis comment ils calculent ça? C'est hyper compliqué de calculer ça, mais il faut juste comprendre une affaire. C'est que le déneigeur qui te donne le service, là, qu'il y ait de la neige ou qu'il n'y en ait pas, faut qu'il paye quand même son camion.
Mais il n'y a pas le choix.
Fait que toi, quand tu paye ton service de déneigement, faut que tu saches que ça se peut qu'il y ait beaucoup de neige, mais ça se peut qu'il neige très peu cette année. Mais ton camion va toujours être là pour te déneiger.
Le prix est le même,
Moi, je vois ça comme une police d'assurance.
Ouais.
Mais il y a des gens qui disent, voyons donc, hein, t'sais, l'année passée, il est juste passé comme 20 fois, là, puis il aurait été supposé de passer 60 fois. Je le comprends, mais il était là. Puis il faisait son paiement de camion pareil. Puis ces camions-là, c'est du 100, 150 000.
Mais oui, c'est
ça dépend du tracteur que tu as, bien entendu. Mais 100, 150 000.
Moi, là où tu peux chialer dans ma tête, c'est si la job est mal faite. C'est ça, je comprends le monde, mettons, que ce soit comme au prix qu'on paye. Ouais. C'est un peu tonnant.
Parfait. Tu écris ça comment sur papier? Job bien fait, job mal fait?
Bien, si tu te lèves tous les matins, puis un ourlet qui n'a pas été ramassé à chaque bordée de neige, je me poserai des questions.
OK. Mais s'il neige en continu?
Bien, là, s'il neige en continu, je te suis, là, mais
tu veux pas être déneigeur? Parce qu'il y en a qui t'appellent et qui disent « Hey, c'est parce que là, la neige est en train de tomber. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur, que je la ramasse avant qu'elle tombe? »
Ouais.
Faut qu'elle tombe pour la ramasser.
Moi, je suis pas capricieuse. C'est vraiment les tu sais, t'as deux types de déneigeurs. T'as ceux résidentiels, t'as ceux de rue, là, dans le sens que t'as ceux qui passent puis te font des foutus au roulet devant ton entrée parce que les autres sont là pour déneiger vraiment la dite rue.
Ouais.
Puis t'as le tien après ça qui vient ramasser ton roulet pour que tu puisses sortir de chez vous, tu sais. Je comprends les gens qui chialent quand leur roulet est pas ramassé puis tu peux pas sortir de la maison. Non, mais c'est vrai, des fois, t'as des bordées avec le crime. C'est haut jusqu'aux genoux, là. Puis je sais pas, toi, t'es en forme, mais moi, qu'une pelle, je t'offre pas longtemps, là. Ça prend du temps à dégager le trou, là.
Moi, je vais plus lentement qu'avant, là, mais je le fais encore.
Non, mais il faudrait que je m'achète une patente électrique.
Ouais. Avant, je me dépêchais tout le temps. Puis là, à ce temps, je me dis, je vais prendre le temps. Il y a tout le temps, chaque année, il y a tout le temps deux, trois qui crèvent là, en ramassant de la neige.
Ouais.
Tu sais, dont un gars que j'ai bien connu. Le gars m'a arbitré pendant des années au deck. Le gars, il était top shape. T'sais, une belle shape là, d'athlète.
Il dessinait comment, crise de cœur?
Il pelletait.
Arrête.
Puis c'est la position dans laquelle tu es quand tu fais du pelletage qui est problématique.
Tu es en train de me dire que pelleter est une activité dangereuse?
Ben pas quand t'as un très jeune âge, là. Mais mettons, lui, de mémoire, il était autour... Là, je veux pas l'identifier, là, mais c'est sûr qu'il y en a qui va savoir de qui je parle. De mémoire, il était autour de 35-36
ans. C'est jeune, c'est beau.
C'est crissement jeune. Puis à chaque année, il y en a deux, trois qui pètent de même.
Mais le monde se blesse.
C'est des gars qui étaient en forme, là.
C'est moi, mon père, le dos barré, mais barré avant Noël pour une foutue niaiserie, une affaire de position. Justement, là, on veut aller vite, hein, tu comprends? Ouais. On contracte mal, on fait mal les affaires, puis il s'est blessé solidement, là.
Ouais.
Fait que, non, c'est vrai que c'est dangereux, dans le fond. C'est pour ça que je le fais pas. Je tiens à ma santé physique. C'est pour ça que je pèle pas. C'est ça que je vais dire à mon chum en arrivant à soir.
Toi, tu jumpes sur le ourlet.
Oui, c'est ça.
Ouais. Puis après ça, ça gèle. Puis là, c'est Tchum qui est avec sa pelle c'est en plastique qui essaie de dégeler ça.
Le pire, c'est-tu quoi? J'avais dit à mon père quand il s'était blessé. Oui, mais Pat, tu as sûrement vu ça, les annonces à la TV. Là, c'est encore des affaires de 30 paiements de ma maman, là, des niaiseries. Mais c'est une pelle électrique. C'est-à-dire que tu pousses la neige, puis tu as comme un mécanisme qui a pitch comme une souffleuse. Vous allez certainement savoir de quoi je parle, 971-1021. Ça a l'air tellement facile dans l'annonce. J'avais dit à mon père, prends ça, tu vas arrêter de te péter le dos, c'est facile, tu pousses ta pelle, ça marche, tu sais. Il paraît que c'est tout aussi complexe et presque plus parce que la machine peut pas prendre des aussi grosses pelletées que toi normalement que ta pelle, là, tu comprends?
Oui, c'est ça.
Fait que c'est encore plus long et plus complexe. Fait qu'il faut dépenser de l'argent et s'acheter une machine.
Fait que c'est ça. Sachez que si vous êtes un dédaigeur, moi j'ai énormément de respect pour vous autres, à part ceux qui font du Pablo Escobar, là. Ceux qui s'organisent qui, pour avoir comme leur propre territoire.
Oui, mais ça arrive pas mal plus qu'on pense.
Si jamais il y en a un qui arrive, là, ils disent « Ah, j'ai suivi Pablo Escobar, il avait allé péter tes pneus de ton tracteur, trou de cul! »
Mais 89-71-101, ça, c'est vraiment un fléau, par exemple. C'est comme les dépanneurs. Il y a vraiment... faut pas que tu t'organises pour être au meilleur prix.
Mais il y en a de moins en moins des Pablo Escobar. Il y en a de moins en moins.
J'ose espérer, là.
Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont de l'argent cash. Fait que là, maintenant, c'est de plus en plus des entreprises sérieuses qui vont charger la TPS, la TVQ. Ouais. Moi, c'est mon cas. Là. Chez nous, j'ai tout essayé. Là. Je peux-tu te payer en dessous de la table? Je veux pas payer la TVQ. Je veux pas donner cet argent-là à des voleurs. Puis finalement, ils m'ont dit non, nous autres, c'est vraiment là, obligatoire TPS, TVQ.
Mais c'est correct. Il n'y a plus grand métier de même que tu peux payer en dessous de la table. Mais toi, quand on dit vraies affaires, il y a des aménageurs que tu peux encore
les
payer en dessous de la table. Oh, oui, barbier aussi?
Barbier, esthéticienne.
Et mon Dieu, je vais réviser mes affaires parce que je veux que la mienne en déclare.
Les femmes de ménage.
Oui, les aménageurs, absolument.
Moi, c'est des jobs que je vais faire à ma retraite, là.
Mais 100% là-dessus, je te comprends. Mais c'est tough comme conversation, hein. C'est parce que tu veux pas avoir l'air de la personne qui veut. Moi, je le demande toujours, comment tu vois ça?
Je n'ai plus confiance en aucun policier. Je ne suis plus capable de les sentir. Surtout quand ils parlent de notre argent puis qu'ils considèrent que c'est notre argent, c'est comme un puits sans fond. On travaille tellement fort pour leur envoyer tout cet argent-là, 50% de nos payes qu'on leur envoie. Puis eux autres, ils parlent de notre argent avec un certain détachement en disant « c'est ça, c'est la vie, tout augmente. »
Fait que pourtant, il n'y a pas de culpabilité à payer en dessous de la table de temps en temps.
Il y en a eu quand les libéraux étaient là. Quand les libéraux étaient là, puis il y avait une... tu sais, ils étaient très stricts là, avec l'argent du contribuable. Là, tu vois, j'étais peut-être moins important de demander à mon garagiste. mettons 500 pièces cash au lieu de 575.
Mettons qu'on fasse ça de même. J'ai l'impression que tu te comprends. Il y a un langage. Ça, là, tu le sens. Tu le sens si t'es capable d'aller là ou pas. On dirait qu'il y a un feeling.
Ah, moi, je le dis tout le temps. Hey, sérieux, moi, je suis pas un gars de carte. Je peux-tu te payer cash? Puis très souvent, c'est
il comprend.
Il comprend.
Ouais.
Mais faut pas faire ça.
Oui, mais tu peux pas faire ça partout non plus. Mais c'est plus dur en ville.
Je sais pas vous autres, 418-971-101, mais je suis plus capable de voir le détachement avec lequel les politiciens parlent de notre argent. Tu sais, ça me pue au nez. Je me dis, on travaille tellement fort. Tu sais, encore en fin de semaine, j'ai entendu parler d'une histoire triste. Deux individus qui travaillent autour de 20-22 piastres de l'heure. OK? Ils ont une petite maison, rien d'exagéré.
Ce qui n'est pas énorme.
C'est une maison qu'ils ont payée genre 170 000 dans le temps. Là, elle va à peu près 230. Ils n'y arrivent pas, les deux.
J'en doute.
Ils arrivent pas. Ils n'ont pas des chars neufs, là.
Ouais.
Ils n'arrivent pas. Ils travaillent temps plein, les deux. Puis, bien souvent, le gars, il demande à son boss s'il peut faire du temps supplémentaire à la fin de semaine pour être pour avoir un plus gros salaire. Ouais.
Pour être capable de stress constant, sérieux.
C'est des jobs à 20$, sérieux. C'est supposé d'être des bonnes jobs, là, 20$, là, tu peux... agent de sécurité, c'est 22$, 23$. Tu sais, je veux dire, t'es supposé être capable de te payer un appartement. Mettons, deux agents de sécurité seraient supposés être capables de se payer une maison. Mais la réalité, c'est plus ça.
Le salaire médian, parce que c'est sur celui-là qu'il faut se fier, me semble pas moyen, mais médian. Me semble qu'on est rendu autour d'un genre de 50 000 par année, là. Puis il y a bien du monde qui sont en bas de ça, là. Fait qu'avec raison, qu'ils arrivent pas. Puis là, tu rentres là-dedans, les enfants, puis le petit quotidien, puis la route, il y en a qui essaient de s'éloigner en pensant qu'ils allaient sauver des sous. Moi, c'était ça le deal, hein. Bon, il y avait le fait que mon chum travaille à Trois-Rivières, mais on se disait, hey, on va sauver des sous en circulant, ça va faire du bien. Je t'annonce que pas du tout, là. Plus maintenant, là.
Non, c'est ça.
Ça coûte aussi cher.
Le prix de l'essence qui augmente. Fait que, tu sais, à cette heure, je me dis, OK, regarde, on peut pas dire qu'il faut absolument faire ça. Mais mettons que j'avais un gars qui me dit, hey Yann, j'ai vu que tu faisais ton gazon chaque année, puis t'as de l'air à chialer après ta tondeuse à chaque année. Je pourrais te le faire pour 20$. Pas de facture. T'en parles pas. OK, c'est beau.
Vas-y.
vas-y.
Garde-toi.
ça te sauve une heure non, de ton samedi.
C'est vrai.
Puis lui, il se fait 20$, c'est l'équivalent de 40$.
Oui, il est bien content.
C'est l'équivalent pareil, de 40$ imposé.
C'est ridicule quand tu y penses. Ouais, il y en a une couple qui sont d'accord avec toi. Là. Marie va nous le dire. Mais c'est dans le même bateau que Marceau, tellement découragé de l'époque dans laquelle on vit.
Mais c'est d'une tristesse. Moi, quand les libéraux étaient là, j'étais d'accord avec eux. Quand ils disaient, savez-vous quoi, le travail au noir, c'est du vol. J'étais parfaitement d'accord avec eux. Mais je sentais qu'ils faisaient attention à notre argent.
Puis, t'avais un plus grand respect, mettons.
Oui. C'est ça, oui. Puis je pense que la majorité des gens sont comme ça. Si tu sens que le politicien dit, écoutez, ce qu'on en vaut au système de santé, c'est 60 milliards, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup trop. Puis cet argent-là pourrait revenir dans les mains des familles qui en ont besoin. Je sentirais comme un certain respect mutuel, mais on le sent plus vraiment, ça.
Tu sais,
Bruno Marchand, en fin de semaine, qui parlait avec détachement d'une piste cyclable qui a été faite tout croche.
Ah oui, j'ai vu les photos. Je pensais que c'était une joke au début.
Tu sais, ça, là, c'est un cas de... Regarde tes sondages, là. T'es dans les bas-fonds de tes sondages, puis le gars qui trône au sommet des sondages, c'est Sam Ahmad, qui s'est même pas encore annoncé, OK? Ça, là, c'est un cas samedi ou dimanche, quand tu te fais parler de cette piste cyclable-là, là. C'est un cas pour dire, savez-vous quoi? L'argent des contribuables a été utilisé là-dessus. Je suis insulté pour eux. Et savez-vous quoi? Ils vont refaire le travail et ça coûtera pas une scène de plus. Mm. Est-ce que c'est clair? Ça aurait... Là, les gens qui écoutent ça, qui entendent Bruno Marchand parler comme ça de leur argent, seraient très, très fiers.
Ben oui.
Mais ils sont tellement déconnectés. Mm-hmm. On est des puits sans fond pour eux autres. On est un citron. Tu sais, un citron pressé.
Oh, oui, il n'y a plus rien à mener, là.
Mais c'est parce que maintenant, il n'y a plus rien. Puis en fin de semaine...
Mais tu vois-tu une porte de sortie à un moment donné?
Oui. Ouais. Tu sais, à un moment donné, ça... Je le sais que...
Je suis un peu désabusé,
non, mais
je m'excuse.
T'es encore très jeune. J'ai quelques années de...
Ben oui, puis mon début de jeunesse est avec la CAQ. Tu comprends, il est avec la CAQ, il est avec ce qu'on vit en ce moment. Fait que moi, c'est comme habituel
mais
un peu.
J'ai quelques années de plus que toi, mais ça, c'est une roue qui tourne.
Ouais.
C'est constamment une roue qui tourne avec les mêmes histoires qui reviennent, peut-être avec des acteurs qui sont différents autour. Puis un moment donné, on va revenir à l'équilibre budgétaire. Mm. Un moment donné, on va commencer à rembourser...
C'est comme des affaires sur lesquelles j'ai un peu lâché prise. T'sais, je regarde tout ce qui sort tout le temps dans l'actualité sur les jeunes qui ne peuvent pas s'acheter une maison parce que trop élevé, les maisons sont trop chères, le salaire n'est pas assez élevé. T'sais, on a de la misère à y arriver. Puis, tu sais, je trouve ça triste, Yann, puis je suis exactement dans cette situation-là, mais c'est comme si... En tout cas, je vais parler personnellement, j'ai un certain lâcher-prise parce que je me dis, si je me mets à me stresser avec ça tous les jours, j'ai pas fini d'être angoissée, tu sais. Fait qu'on est dans cette période-là, ça marche comme ça en ce moment. C'est franchement fâchant, mais moi, j'ai comme pas connu autre chose. Fait que c'est de même, ça marche en ce moment. Tu comprends? À la limite, ça va être un cadeau dans une couple d'années.
Mais je décrocherai jamais, je les lâcherai jamais.
Mais c'est sûr, comme je te dis, t'as vu autre chose, t'as vécu autre chose, c'est insultant. Je pense juste que j'ai pas cette vision-là. Je suis consciente d'eux, mais en même temps, étant donné que j'ai pas le sentiment de le vivre, puis ça a toujours été le même pour moi, ben, tu sais, je sens pas les impacts.
Vous autres, vous avez des rêves en couple, là. C'est d'acheter une maison.
Ils sont très durs à atteindre, me dire.
Chaque année, là, tout augmente autour de toi, les maisons augmentent, puis ton rêve s'éloigne de plus en plus.
Je vais même te dire quelque chose, j'ai trouvé ma maison de rêve il y a à peu près un mois maintenant, puis je décroche pas encore, j'en rêve la nuit. Puis cette maison-là, bon, pour certaines raisons, là, est louée en ce moment comme un genre de chalet Airbnb, fait qu'il y a des taxes supplémentaires à payer, ce qui l'amène, au moment où on se parle, à un genre de 460 000, OK? Je t'annonce que si je paie cette maison-là avec mon conjoint, ça se fait, là, mais on est au coup. Il ne peut pas arriver un bris de char, il ne peut pas arriver rien. Là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se la permettre, finalement.
Ouais. Faut que tu commences à faire de la tonte de pelouse.
Faut que je fasse de la tonte de pelouse. Deschambault, Portneuf, y a-tu quelqu'un qui est 88-971-109, je suis preneuse de contrat?
20 piastres cash! Pas de facture!
Hey, mais le pire, tu dis ça, c'est... Dans les trois dernières semaines, là, quand j'étais en vacances, il y a un moment donné où je me suis mis à regarder comment je peux faire un revenu supplémentaire à un moment donné sur le site? Peu importe ce que c'est. C'est-tu des chiffres la fin de semaine? C'est-tu un projet que je me monte sur le côté à mon compte? Je me suis même posé des questions avec les compétences que j'ai. Est-ce que c'est de recommencer l'animation de mariage? Est-ce que c'est recommencer l'animation d'événements? Je me suis posé des questions pour me dire, OK, puis je suis pas mal payée en passant. Là, j'ai un salaire qui est très décent en ce moment. Là. Mais avec les conditions dans lesquelles je vis, puis pourtant, je suis pas une grande dépensière, c'est difficile. Puis en ce moment, à la maison, on n'y arrivera pas, je te le dis. Là.
C'est à peu près 80% des gens qui sont à mancher.
Mais totalement, c'est pour ça que j'en parle.
Qui sont à mancher comme vous autres. Puis là, je sais qu'on est dans l'open mic. Techniquement, Audrey, je sais, tu ne m'as pas donné le droit de le faire, mais je vais le faire. Ne laissez pas ces trous de cul-là éloigner votre rêve d'avoir une maison
comment?
Avec un lopin de terre. dénoncez-les constamment. Chaque fois qu'ils mentent, chaque fois que vous les prenez à être un peu easy avec votre argent, dénoncez-les constamment. Ben, tu sais quoi? S'ils peuvent ne pas être réélus aux prochaines élections,
ça sera
déjà ça de fait. Mais tu sais, le rêve là, a jamais été d'habiter au centre-ville. Moi, je suis né là, OK? Ce sera jamais mon rêve d'habiter au centre-ville de Québec dans un petit appartement minable pour élever mes enfants puis qu'il n'y ait pas de lapin de terre puis qu'à chaque fois que je les amène au parc, mon stress, et ça, c'est histoire vécue, soit dit en passant, mon stress, c'est ils vont-tu tomber sur des seringues? Ils vont-tu tomber sur de la vitre cassée? C'est pas ça, mon rêve. Puis c'est pas ça le rêve d'à peu près 90 % des gens qui nous écoutent. Pour ce qui est des 10 % je vous salue. Mais élever un enfant en ville, c'est un stress épouvantable. Puis quand les politiciens disent « Ah, mais on veut ramener les familles en ville », fuyez. Je suis né là, moi. Fuyez, hostie.
Mais écoute, j'ai la même là-dessus, je peux pas t'obstiner, j'ai la même pensée que toi.
Ils sont en train, tranquillement, de les ramener en ville. Le problème, c'est qu'ils dorment à terre. Ouais. Les trottoirs, les citoyens que vous ramenez en ville.
Ouais, c'est ça. Mais écoute, je suis totalement avec toi, je trouve juste ça. Puis tu sais, le pire, c'est que je t'entends, ça donne le goût de se lever puis de se battre, mais en même temps, c'est que tu as l'impression que c'est de l'énergie dans le vide.
Je préfère des manicures de pieds qu'on dit ici.
Pelaille, moi, j'ai aucun talent. Là. Ça, c'est me surestimer. C'est...
Hey, blonde, m'envoyer. Tu sais que moi, j'étais un fan de Marketplace, OK?
Oui, je comprends.
Je magasine là-dessus, mais j'ai besoin d'absolument
rien.
Ouais,
je fais pareil comme toi, je scroll, je fais du lèche-vitrine.
Puis je regarde des affaires, des fois, qui n'ont pas de maudit bon sens. Ma blonde a pogné une dame qui vendait ses souliers escarpins, c'est ça?
Oui, comme des genres de ballerines, là. Des
talons hauts noirs avec chaîne et brillants, OK? Ça, c'est le soulier escarpin avec le pied de la dame dedans. Puis regarde ça, Audrey.
Ses orteils sont mal entretenus. Oh non, c'est épouvantable. Et tu peux pas acheter ces escarpins-là, sachant que ses pieds-là, ils ont touché. Je refuse!
Ouais.
Mais ça, c'est une règle en passant. Mais si vous vendez sur Marketplace, forcez-vous, s'il vous plaît.
Mais ceux qui donnent des soins des pieds, là, ils doivent vivre avec ce monde-là.
Mais absolument.
Là.
Voyons donc. C'est juste que moi, je peux pas faire ça. Les pieds, ça... Je peux pas dire que ça... je vomis pas, mais toucher les pieds de quelqu'un que je connais pas, je pourrais jamais.
Ouais. Tu connais l'humoriste Jean-Michel Anctil?
Oui.
Quand il fait râteau?
Oui, ça... oui, absolument. Ouais.
Ses dents?
Oui.
Ben, ses dents, râteau, ressemblent au bout de pied de la dame qui vend ses escarpins, ses souliers escarpins.
Pour vous donner juste une image, parce qu'on fait de la radio, là, les orteils sont franchement longs, un peu comme curvés, et les ongles sont pas particulièrement bien entretenus. Là. Ça, en passant, là, entretenez vos ongles, ça en dit long sur le reste de votre entretien corporel. Hey, on a un gros show, puis J23.
On dit que tu pourrais devenir coloriste en passant.
Hey, boboy! J'ai pas de talent non plus, c'est pour ça que ça me coûte une beurrée chaque fois que je vais à quoi faire. J'ai vraiment pas de talent artistique de même, là. Je pourrais pas faire ça. Je sais faire plein d'affaires, mais pas, tu sais, de la peinture à ongles, puis ces affaires-là, je salue les gens qui font ça, parce que j'ai pas cette patience-là non plus. Je pense que ça vient avec une grande patience puis une grande écoute. Puis il faut que j'écoute Marceau pendant 1h30, puis Denis pendant 4 heures par jour, fait que j'ai plus d'espace mental pour ce genre d'affaires-là, en toute honnêteté.
Il y en a un qui nous écrit « Salut, je travaille à la ville, 28 $ de l'heure, et ma blonde est comptable. » J'ai la chance d'avoir une maison avec un bébé de 12 mois et je dois prendre toutes mes vacances pour aller travailler au noir dans un garage automobile pour pouvoir payer mes taxes municipales et mes comptes, en plus de faire des deals marketplace en repérant des tondeuses et des souffleuses. Ça prend énormément de mon temps, mais j'ai pas le choix. La vie coûte extrêmement cher.
Mais le pire, c'est que cet auditeur-là est loin d'être seul parce que des histoires comme ceux-là de travail sur le site la fin de semaine, là, j'en entends des tonnes et des tonnes. Puis j'ai étudié avec une fille qui habite maintenant pas loin de mon coin qui a une bonne job de jour, puis elle n'a pas le choix récemment de commencer à travailler dans un certain resto pas loin de chez eux pour arrondir. Fait que 7 jours semaine à travail, elle et son chum se voient presque pas, tu comprends? C'est comme pas une vie.
Quand t'as 20 ans, c'est normal de bûcher pour réussir dans la vie. Mais quand t'es rendu à 30, 40, 50, 60, puis faut que t'aies 2-3 jobs pour combler, c'est insultant.
Mais c'est-tu normal, Yann? C'était peut-être normal, mais c'est-tu normal de bûcher? Tu sais, mettons que t'as fait tes études, là, faut que tu prennes de l'expérience, ça, je te le donne. T'as peut-être un 3, 4, 5 à limite, des années où tu vas peut-être être payé moins cher parce que là, tu te formes sur le marché du travail. Mais, tu sais, mettons, là, la fille de 24 ans, tu comprends qu'il a fait toutes ses études, qu'il a travaillé bien fort, qu'il est rendu, je sais pas, là, moi, avocate, n'importe quoi. Là. C'est-tu tant normal que tu bûches puis que tu fasses des heures la fin de semaine pour combler? Je trouve pas. pas parce que tu as 24 ans que, tu sais, si tu as fait tes études, tu travailles fort, ouais, dans un métier, puis tu fais la même job que. Je trouve pas.
Je pense qu'il faut passer par là. C'est un passage obligé pour apprécier ta vie quand tu vas avoir 30, 40, peut-être 50, parce que tu vas te souvenir à quel point tu as bûché pour y arriver là. Il y en a qui n'auront jamais vécu ta situation quand tu avais 20 ans, tu sais. Puis ils sauront jamais c'est quoi. Moi, j'ai passé par là. Tu sais, j'allais à l'école temps plein, je travaillais temps plein. Des fois, j'avais deux jobs.
J'en avais cinq au cégep.
Je travaillais chez Ronald McDonald à 16 ans.
Ouais.
C'était mon chiffre de nuit. Puis le lendemain, j'allais travailler à l'école.
C'est fou, là.
Mais je me souviens de ça.
T'sais, mais tu sais, ado, je te le donne. Dans vingtaine, j'ai comme l'impression qu'un coup que tu es placé, il faudrait que tu aies un salaire respectable pour pouvoir te placer dans la vie aussi.
Ouais.
C'est triste d'acheter ta maison à 35 ans, là.
Oui, mais ça va être de plus en plus.
Mais oui, c'est ça. Mais c'est épouvantable.
T'as raison. OK, hey, on va faire. On s'en va en musique avec Émile Bilodeau, Crise existentielle. Mais aujourd'hui, comme Audrey vous l'a dit, gros show. Maude Bornet va être avec nous en studio, qui est avocate en droit familial et en protection de la jeunesse. Elle va parler du patrimoine familial, parce qu'il y a des choses qui ont changé.
Oui. Puis on n'est pas au courant de rien. Moi, c'est ça qui me fascine.
Est-ce que les gens en couple non mariés vont être considérés comme des couples mariés lorsqu'ils vont se séparer?
Ben, c'est la grande question.
Elle va-tu partir avec la moitié de tout ce que t'as?
Est-ce que ça vous stresse? Mon chum ne veut pas marier juste pour ça. Fait que si ça peut être ça, tant mieux.
OK, cheap. Maudit cheap, tu chum. Oh boy. Merci d'être là, les amis. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Tu sais quoi, Audrey? On est mardi. Juste à dire, je suis content de jaser avec toi.
Hey, moi aussi.
Merci d'être là. Il n'y a jamais de surprise avec toi, Audrey.
Pourquoi?
Il n'y en a jamais. 5 degrés sur Québec pour aujourd'hui, c'est de la pluie intermittente. 5 à 10 mm annoncés, maximum de 10 degrés. Pour ce qui est de ce soir et cette nuit, pluie intermittente avec des températures pour atteindre un genre de 13 au cours de la nuit. Donc, ça va se réchauffer. Demain, c'est de la pluie, maximum de 17. Jeudi, nuageux avec un maximum de 7 degrés. Vendredi, pour terminer la semaine de travail du début du mois de novembre, ce sera nuageux avec un 30% de probabilité d'averse, maximum de 6 degrés. Sur la route?
Il y a des petits ralentissements si vous êtes sur Charest direction Est, entre Henri IV et Robert Bourassa au moment où on se parle. Sur la rive sud, c'est sur Guillaume Couture que c'est difficile vraiment à l'approche là, des ponts. Il y a un bon ralentissement à prévoir quand même. C'est pas mal tout pour le moment. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. 971-1021, texto.
10h35, Audrey Pinchot, es-tu mariée? T'es pas mariée?
Je ne suis pas mariée et mon amoureux ne veut pas me marier parce qu'il a peur que je parte avec 50% de son argent.
T'es-tu conjointe de fait ou tu ne l'es pas?
Ben j'ai l'impression que oui, puis là, j'ai peut-être l'air nounoune, mais je commence à me poser la question, c'est quoi la définition exacte d'un conjoint de fait?
Je me suis considéré comme conjoint de fait à partir du moment où mon comptable dit « Ouais, faut que vous fassiez vos impôts à
ben,
deux. »
Ben, donc oui.
Ouais.
Tu sais, là, on habite ensemble depuis longtemps, on est ensemble depuis 6 ans, j'ose imaginer qu'on était au moins conjoint de fait.
Mais vous faites vos impôts à deux?
Oh oui, okay. Oh, oui, on mélange nos affaires, là, oh, oui.
C'est ça, fait que vous êtes considéré auprès du gouvernement, vous êtes considéré comme conjoint de fait. On parle du patrimoine familial depuis des années, en fait. Il y a de ça quelques années, on nous avait dit, ben, on regarde un peu ce qui se passe au Canada, les couples qui ne sont pas mariés versus les couples qui sont mariés. Il semble y avoir une injustice au Québec par rapport au reste du Canada, surtout dans les couples ayant des enfants.
Mmh. Sur tes droits à la séparation.
Sur les droits et tout ça, de ce que je comprenais dans le temps, puis ce sera à Maître Bornet de nous raconter l'histoire. Mais de ce que je comprenais, c'est que si une femme avait des enfants au Canada, puis elle était conjointe de fait, elle était considérée comme mariée, donc il y a un patrimoine familial qui venait avec ça. Je te prends un cas type. Le gars, il travaille en entreprise, c'est sa propre business. Pendant 10-15 ans, il s'entend avec sa conjointe pour dire « Toi, tu ne travailleras pas, tu vas rester à la maison, tu vas rester avec les enfants. » Elle, ça faisait son affaire. Puis lui, il monte son entreprise, puis il devient multimillionnaire. Et là, il y a séparation.
C'est là que la pension rentre en jeu.
Au Canada, était conjointe de fait, donc elle pouvait avoir le patrimoine familial, donc avoir une participation à l'enrichissement de monsieur. Fait que là, on coupait la poire, je ne sais pas à quel pourcentage, puis il y avait une pension alimentaire pour les enfants, puis il y avait une pension alimentaire aussi pour la conjointe de fait, parce que les enfants devaient rester à peu près dans le même luxe d'un bord et de l'autre. Ça, c'était au Canada, de mémoire. Et au Québec, on n'avait pas ça. Puis à un moment donné, il est arrivé une cause, puis Maître Bornet nous parlera de cette cause-là, puis on s'est dit, OK, visiblement, c'est pas pareil comme dans l'Ouest canadien, là, au Québec.
Mais c'est pas juste non plus, parce que dépendamment du couple dans lequel t'es, c'est quoi la job d'un, de l'autre, les avoirs d'un, de l'autre, les décisions que tu prends. Tu sais, quand t'es en amour, tu prends bien des décisions sans trop réfléchir pour te rendre compte qu'au final, c'est toi qui t'appauvris.
Oui, mais visiblement, Tichum, il a pensé à son affaire.
Non, il est très intelligent.
Oui, c'est ça. Maître Maude Bornet est avec nous. Elle est avocate en droit familial et en protection de la jeunesse sur le patrimoine familial. On lui jase. Elle est du bureau Gravel-Bernier-Vaillancourt. Bettencourt. Maître Bornet, bonjour.
Bonjour, vous deux.
Merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous entendre une première fois sur les ondes de radio. C'est oui. Votre première fois, c'est
ben
intéressant.
Oui, c'est ma première fois. Merci à vous deux de m'avoir invité.
Est-ce que les gens comprennent les changements qu'on va avoir en 2025, selon vous?
Bien, d'entrée de jeu, là, juste le petit topo qui a été fait là, au début... On a déjà des choses à départager puis à clarifier. Là. Visiblement, moi, lorsque j'ai des clients qui viennent, parce que je suis médiatrice agréée également,
oui.
Que les clients viennent me voir pour une médiation ou dans le cadre d'une séparation qui est litigieuse, je me rends compte rapidement là, que le monde connaisse peu le droit applicable, que ce soit conjoint de fait ou conjoint de marié. Et il y a beaucoup de choses à démêler. Patrimoine familial, régime matrimonial, c'est pas là, tout à fait la même chose. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin pour venir essayer de vous mâcher ça un peu, parce que c'est quand même aride comme sujet.
Ouais, on en avait parlé un peu, je pense que c'était-tu dans le coin de 2010, la cause, moi je l'appelais Pete et Lola, là, en raison Éric de chambre en ville, mais c'était Éric et Lola. Bon, on parlait d'un homme d'affaires milliardaire qui
2014,
se séparait de sa conjointe avec qui il avait eu des enfants. Puis c'est là qu'on a commencé à jaser de ça.
C'est de là que, oui, exactement. C'est là que... Bien, ça a été un gros dossier qui est monté jusqu'en Cour suprême, donc oui. La plus haute instance du pays, où qu'on a mis en lumière qu'effectivement, il y avait une problématique au niveau social, une problématique sociale sur la notion de conjoint de fait, qui créait une iniquité, visiblement, au niveau, en fait, même... Lola réclamait une pension alimentaire entre conjoints puis un partage du patrimoine. Sans rentrer dans les tenants aboutissants là, de la décision, parce qu'on pourrait s'en parler un petit bout, là, les tribunaux sont venus dire, bien, on repite ça dans le cours du législateur, du gouvernement, puis il faudrait revoir la notion de conjoint de fait, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Conjoint de fait, nous autres, on a comme parlé d'entrée de jeu un peu de nos savoirs, mais à partir de quel moment tu te considères officiellement conjoint de fait? C'est-tu quand tu habites ensemble? C'est-tu vraiment les impôts? C'est...
À partir du moment, là, pour la notion de conjoint de fait, lorsqu'on parle avec la réforme, à partir du moment où deux personnes vont se présenter comme couple ou que le monde va savoir que c'est un couple...
Ça serait-tu un an à même adresse?
Bien, en fait, avec la nouvelle réforme, là, je vais parler vraiment de la nouvelle réforme, ça va être à partir... J'ai amené la définition, là, deux personnes qui font vie commune, qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Puis c'est sûr que s'ils ont un enfant, c'est présumé être conjoint de fait.
OK, fait que moi puis Yann, ça fait deux semaines qu'on se fréquente, mais si on annonce qu'on est en couple, on est conjoint de fait. Ouf! Sa tête! OK, non, mais c'est plus clair quand ouais. même.
Enlevez les noms de vos blondes sur Facebook, les gars.
Okay. Je reviens à Éric Filot, là.
Oui.
En la Cour suprême, lorsqu'elle a rendu sa décision, il y a eu un comité consultatif qui se sont penchés sur la question pour apporter des recommandations. 2015, le rapport, il sort. Puis à partir de 2015 jusqu'à 2020, il n'y a rien qui a changé. Ça a pris vraiment 2020 pour que là, on se penche vraiment sur la question puis qu'on apporte des changements au niveau du droit familial.
Ouais, on n'avait pas mis Maître Sonia Lebel dans l'aventure aussi.
Oui, effectivement. Ouais. Puis, la dernière réforme là, en droit familial date quand même des années 80. Là, fait que c'était pas mal dû, puis il y avait un bon job à faire.
Puis là, cette réforme-là va être en trois volets, de ce que je comprends. Il y en a deux d'amorcés?
En fait, on est pas mal dans le troisième volet. Là.
Okay.
Les deux premiers, là, on parle 2022-2023, mais ça n'a pas touché la notion de conjoint de fait, pas à ce moment-là.
Donc, parfait. Donc, en 2025, en commençant avec les conjoints mariés, comment ça se passe? C'est pas drôle, hein? On parle de séparation. Ben, écoute, j'aime ça.
Mais c'est la réalité.
Hey, on va vous réinviter, maître, à la Saint-Valentin.
Hein? Ah,
on
ça
parlera de
fun.
Ce sujet-là.
Toujours un bon timing.
Ouais, donc, conjoint marié, qu'est-ce qui change pour 2025?
En fait, conjoint marié, il n'y a rien qui change.
Rien qui change?
Oui. Au moment du mariage, on crée un patrimoine familial.
OK.
OK. Donc, un patrimoine familial est créé. On se marie, on crée un patrimoine. Le patrimoine, là, les biens qui sont dans le patrimoine familial, c'est la résidence familiale, les résidences secondaires, fait que les résidences des parties, peu importe qui est propriétaire, là, les résidences, les véhicules automobiles qui sont utilisés par la famille, les REER, les fonds de pension, la Régie des rentes du Québec, puis les meubles, j'ai oublié, là, mais les meubles qui garnissent les résidences.
Tous tes avoirs, finalement. Là.
Non, c'est juste ceux que je viens de nommer. Ça, c'est automatique. On se marie, c'est automatique, il y a le patrimoine. On ne peut pas faire de opting out, il est là.
Parfait.
Le patrimoine, il est là.
Donc, on est marié.
Oui. Après ça, on peut avoir un contrat de mariage. Ça, c'est le régime matrimonial. Donc, ça, c'est les autres biens. Par exemple, des placements, le CELI, des placements REER, c'est dans le régime matrimonial. Et ça, on peut décider de comment on va partager ça. Mais si on se marie puis on fait pas de contrat de mariage, c'est 50-50 qui va s'appliquer.
Ça, il faut le faire avant, ça veut dire.
Idéalement, mais ça peut être fait pendant le mariage aussi, dire comme « Hé, on n'a pas fait de contrat de mariage, on va aller faire notarier, parce qu'il faut que ça soit notarié, un contrat de mariage. »
Drôle de question que je vais te poser mais c'est vraiment des discussions qu'on a eues à la maison puis avec des amis. Est-ce qu'on peut faire, dans ce contrat-là, là, quand tu te maries, est-ce que tu peux faire l'inverse, dire que non, ce sera pas 50-50? N'importe quel exemple, je sais pas, je suis mariée avec Yann, puis il a pas mal moins d'avoir que moi, OK? Puis moi, je veux être sûre que je l'aime, fait que je veux qu'on se marie, mais je veux pas qu'il y ait 50 % de mon stock quand même, là, tu comprends? On est du monde terre à terre, puis on veut garder nos affaires. Est-ce que ça se fait à l'inverse d'écrire dans le contrat de mariage si on se sépare, il y a pas de bordel de 50-50, on repart avec nos trucs?
Pour les biens qui font partie du régime matrimonial, oui, mais pas pour les biens qui font partie du patrimoine familial. C'est intéressant. On peut juste se sortir du patrimoine à la séparation. Vous pouvez convenir au moment de la séparation que vous voulez pas vous prévaloir du patrimoine familial. Mais c'est plus tough.
Oui.
Tu sais, au moment de la séparation, quand il y a tout le conflit, les irritants, tout ça, puis de dire, ah, ben finalement, moi, le patrimoine, c'est correct.
Là, on c'est faire, ça finira bien, là. OK,
mais
c'est clair.
C'est pour ça qu'il faut faire les papiers quand ça va bien.
Oui, mais je le répète, pour le mariage, le patrimoine familial, il n'y a pas de opting out avant. Mais il y a quand même le régime matrimonial là, qu'il faut penser, parce que si on est une personne en affaires, les actions dans une compagnie, ça tombe dans le régime matrimonial. Là. Ah, si ça a été acquis pendant le mariage, parce que là, je ne rentrerai pas dans toutes les subtilités. Là, je vais vous perdre. On va se perdre le matin. Là. Mais grosso modo, ça, c'est pour les conjoints mariés.
Okay.
La différence avec les conjoints de fait, avec la réforme, c'est que les conjoints mariés qui ont eu des enfants après juin 2025, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, des modifications de la loi, il va y avoir un régime patrimoine familial qui va se mettre en place. Mais celui-ci, on va pouvoir faire un opting out.
Pour les conjoints de fait?
Pour les conjoints de fait.
OK.
Avec enfant?
Avec enfant.
OK.
Parce que le patrimoine familial va se créer à partir du moment où on a un enfant après juin 2025.
OK, mon Dieu, mais ça, c'est intéressant. Fait que c'est vraiment au niveau de la famille qui se crée. Là. C'est-à-dire que moi, mon chum, il n'y a pas d'affaire de patrimoine tant qu'on ne fait pas d'enfant.
Ouais.
OK?
Bien, c'est ça. Mais là, on est quoi? On est au mois de novembre?
Ça s'en vient, il faudrait
que... C'est 9 mois, hein? Fabriquer un enfant.
Je vais dire ça, il va peut-être changer d'idée. C'est ça, peut-être que je vais tomber enceinte plutôt que prévu.
Bon, un autre qui va me quitter. Mais OK, je trouve ça intéressant. Est-ce que dans le cas des conjoints mariés qui se séparent, là, il y a une pension alimentaire qui vient aux enfants? Mm-hmm. Une pension alimentaire qui peut venir pour la dame aussi ou pour le monsieur, tout dépendant la situation. Est-ce que c'est la même chose pour les conjoints de fait?
Bien, pour la pension alimentaire pour enfants, oui.
OK.
Que la pension alimentaire pour enfants, c'est d'ordre public. Là. Nous autres, les avocats, on ne fait pas grand-chose. On prend les revenus, puis un petit formulaire, puis ça nous dit la pension alimentaire. C'est pas aléatoire, c'est pas discrétionnaire au tribunal, c'est d'ordre public.
Puis est-ce que monsieur ou madame peut demander une pension alimentaire étant non marié? Est-ce qu'il peut demander une pension alimentaire pour avoir à peu près l'équivalent de ce que l'homme ou la femme, l'autre côté, peut offrir à ses enfants?
Non.
Non.
Là, il n'y a pas de pension alimentaire entre conjoints pour les conjoints de fait.
Okay. C'est la différence qu'on a avec l'Ouest canadien?
Bien, en fait, les différentes provinces, oui, il y a des protections que nous autres, on n'avait pas. Ouais. On en a mis des protections, mais les différentes provinces ont encore des différences. Là. Puis là, je ne me lancerai pas dans le droit comparatif à matin, là, mais effectivement. Là.
Fait que là, pour être clair, mettons, là, passé juin 2025, là, moi, j'accouche, puis finalement, mon bébé a 2 ans, puis on se sépare. C'est comment ça marche? Quand ça va être entré en vigueur, je veux dire.
Si vous êtes conjoint de fait avec des enfants qui sont nés après le 29 juin.
Ouais.
Il y aura un patrimoine familial qui va s'être créé au moment que l'enfant est né, évidemment. Donc, tous les la résidence, les véhicules, les meubles blancs, mais pas REER comparativement aux conjoints mariés. C'est quand même important de le préciser. Pas les REER, les fonds de pension, mais les résidences familiales, les véhicules utilisés par la famille et les biens meubles. C'est sûr qu'on parle de... C'est pas le bien qui est partageable, mais bien la valeur du bien. La valeur nette du bien. S'il y a des dettes, on enlève les dettes là, pour déterminer la valeur qui est partageable. Et tu aurais une réclamation pour cette valeur-là.
Y a-t-il du négatif à ça ou on le voit 100% positif?
Mais c'est pour les enfants, c'est positif. Là.
Ben, c'est des changements qui... Exactement, c'est des changements qui ont été faits pour protéger les enfants. Puis tu sais, actuellement, là... On a une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur le 29 juin 2025. Fait qu'il y a différents degrés de protection. Des enfants qui ne seront pas protégés, ceux qui sont nés avant, puis il y a des enfants qui vont être protégés, ceux qui sont nés après. Fait que ça n'a pas tout réglé, là, mais on a quand même un premier pas de fait.
OK. Et dans le cas des conjoints de fait avec des enfants nés après le 29 juin 2025, il y a une business qui est là-dedans. S'il n'y a pas de papier qui est fait, est-ce que la personne peut donner 50 % de sa business?
Non. C'est pas dans le patrimoine. Différence patrimoine. Puis c'est vraiment circonscrit à certains biens, là. Résidence, véhicule utilisé par la famille, les meubles blancs.
OK. Pour ce qui est des conjoints de fait sans enfants, y a-t-il des choses qui changent pour 2025?
Non. En fait, les conjoints de fait sans enfants, il n'y a pas vraiment de protection là, qui existe. Chacun a son petit baluchon. Puis c'est sûr que s'il y a des biens meubles qu'on ne sait pas trop c'est à qui, ben, il y a une présomption que ça a été acheté conjointement.
Est-ce qu'il y a des genres de contrats que tu peux faire quand tu es conjoint de fait sans enfant? Je ne sais pas, mettons, là, je ramène le couple. Là, Yannick et moi, on est le couple du jour. Là. Yannick, je fais pas mal plus d'argent que toi. J'aime mieux cette vision-là. Okay? Je fais pas mal plus d'argent que toi. Puis, je ne sais pas, moi, j'y paye sa voiture. Je paye beaucoup de choses pendant notre vie commune. Puis, quand on se sépare, ben merde, je perds tout. Y a-t-il des contrats qu'on peut faire quand on est conjoint de fait sans enfants pour se protéger de ce genre d'affaires-là?
Bien oui, en fait, ça a toujours existé. On a toujours pu avoir des contrats pour prévoir un peu les séparations, pour éviter les conflits, les litiges, les iniquités. Les contrats ont toujours pu se faire. On peut toujours prévoir même une pension alimentaire entre conjoints en cas de séparation.
Ah ouais, j'avais entendu que c'était comme un mythe, fait que c'est pour ça que je pose la question.
C'est possible. Le problème, c'est que peu de monde le font. Donc, c'est pour ça que la réforme est venue apporter que si on veut se soustraire du patrimoine, on peut faire un opting out, mais sinon, c'est automatique.
Okay.
Parce que le monde ne font pas de contrat, justement. Ce qui faisait que les personnes plus vulnérables se trouvaient clairement défavorisées. Mmh.
Est-ce que s'ils gardent leur facture, ça peut faire une différence devant une avocate comme vous?
Bien, c'est sûr que dès qu'on est au tribunal, là, il faut toujours apporter de la preuve. Souvent, en familial, ouais. C'est du témoignage contre une version d'un qui a acheté la TV. Il y en a un qui va avoir sa version, puis l'autre va avoir sa version différente, puis le juge va vouloir trancher qui a acheté la TV. Là. Ça, des fois, c'est plus, c'est plus complexe.
Ouais.
Mais encore là, si les enfants sont nés après juin 2025, peu importe qui a acheté le bien, ben la valeur va être partageable.
Okay. Maître Bornet, vous êtes médiatrice. Il y a combien de gens, des anciens couples qui se présentent devant vous, qui sont là de bonne foi des deux côtés, en pourcentage?
Une chance, il y en a quand même.
Oui.
Je ne sais pas le pourcentage, mais une chance, ça ne va pas tout devant les tribunaux.
Ouais.
Déjà que le droit de la famille engorge visiblement le système judiciaire actuellement. Donc, déjà, la médiation, favoriser les méthodes alternatives de règlement, c'est pour venir libérer ça.
Mais j'ai trouvé que c'est une bonne chose, moi, du gouvernement. C'est 3 séances que le gouvernement paye pour...
En fait, ça va en nombre d'heures.
En nombre d'heures, OK.
Oui, c'est 5 heures lorsqu'on a des enfants.
Oui.
5 heures de médiation qui est payée par le gouvernement. Après ça, on peut avoir un 2,5 heures là, annuellement pour une révision.
Okay.
Parce que la situation va toujours être changeante. Là, lorsqu'on est parent, on est parent une vie. Là, on a être séparé lorsque les enfants ont 2 ans versus 15 ans, les enjeux ne sont pas les mêmes, puis la réalité financière non plus. Là, donc, on a toujours droit à une révision annuellement.
Oui, puis vous libérez la cour complètement. Là. En étant médiatrice, vous êtes capable de régler des choses à même votre bureau plutôt que d'aller en procès.
Effectivement, puis on peut sortir aussi du cadre de la loi, ce qui est le fun, là, parce que les tribunaux, ce qu'ils vont faire, ils vont appliquer la loi.
Ouais.
Ils vont écouter l'histoire, mais ils vont appliquer la loi tout simplement.
Selon les faits.
Selon les faits qui sont rapportés. Tandis que nous autres, en médiation, je vais prendre les deux parents, puis je vais voir ce qui font du sens pour les deux. Là. Je vais leur dire ce que la loi dit, mais après ça, ils vont pouvoir de convenir quelque chose qui est plus juste de part et d'autre. Fait que les deux ont souvent un sentiment plus de justice que quand le tribunal va trancher dans leur décision.
Et sur 100 couples, 100 ex-couples qui se présentent devant vous, Maître Bornet, il y en a combien qui ne réussissent pas à s'entendre puis qui doivent y aller à procès?
Bien, dans mes dossiers litigieux, là, ceux qui viennent puis qui sont en chicane à la base, je dois régler quand même 75 à 80 % de mes dossiers.
Quand même.
Ça, c'est 80 % des dossiers qui ne se rendent pas en procès.
Appel, là.
Mais souvent, il y a de l'émotion. Hein? On est en droit familial. Fait que le monde arrive, là, puis chacun a leur histoire, puis ont leur vérité. Là. Les deux parties ont leur propre vérité, puis il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une qui vaut nécessairement, pas dans tous les cas, là, mais souvent, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Là. Chacun a leur vérité, puis ils l'ont vécu différemment. Donc, avoir des avocats qui sont capables de dire, ouais, mais comment ça va te coûter au bout pour obtenir ta TV? Pense-y, là, on est-tu capable de trouver un compromis? Ça les aide.
Ouais. Puis en médiation, quand vous êtes devant les deux personnes, ça vous arrive-tu des fois de réfléchir dans votre tête en disant « OK, je suis avocate, je ne suis pas psychologue. faut que je reste avocate, avocate, avocate. »
Ben, en fait, je ne suis pas vraiment avocate quand je suis médiatrice. Je suis médiatrice.
Donc, c'est vraiment un rôle. Vous substituez au juge?
Non. Mon rôle n'est pas de décider pour eux. C'est de les amener à arriver à un consensus qui font du sens pour les deux.
OK. Donc, ça touche la psychologie.
Oui. Ouais. Puis c'est vraiment... ce qui est dur, c'est de me sortir de mon rôle d'avocate.
Ah, voilà.
C'est le contraire. C'est de me sortir de mon rôle d'avocate parce que j'ai plus un rôle de... Tu sais, même si ça ne colle pas complètement à la loi, c'est pas grave. Les deux sont contents. Ça, c'est pas complètement inéquitable pour un, là, parce que là, sinon, j'ai quand même un certain devoir, là, mais ça fait du sens pour les deux. Les deux sont bien là-dedans, sont à l'aise avec la solution qu'on a trouvée, qui est complètement out of the box, qui est un peu ailleurs. Ben c'est parfait, là. C'est un peu mon rôle de médiatrice.
Whatever works, au final, c'est un peu ça. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu répondu à la question, mais elle vient juste de nous être envoyée par texto. Il y en a à qui ça fait un peu peur, la réforme. Il y a quelqu'un qui nous dit, donc, conjoint de fils, si j'ai tous les meubles de la maison, mon camion, bref, toute ma partie, j'ai tout acheté avant d'être conjoint de fils avec enfant, je vais devoir lui donner la moitié de tous les biens et mon camion, même si c'est moi qui ai tout payé avant d'être en couple.
Il n'y a rien compris de ce qu'on explique.
Mais il y a quand même... même des petites choses, comme je dis, je ne peux pas expliquer toutes les subtilités, mais c'est sûr que les biens qui ont été acquis avant que le patrimoine familial s'est formé, il va y avoir une espèce, ben en fait, il va être une espèce de déduction.
Il y a des portes de sortie.
Il y a des portes de sortie, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on achète
une
maison avant, mais là, le patrimoine se crée, mais il reste une hypothèque, fait qu'elle n'est pas complètement payée. Fait qu'il va y avoir des déductions pour les sommes qui ont été mises avant, là, on calcule avec la plus-value, puis
c'est pas blanc ou noir, mettons, là.
C'est rarement blanc ou noir, puis c'est pour ça que ça des fois, ça vaut la peine d'aller juste consulter quelqu'un pour faire le ménage exactement dans nos choses.
Faites-vous des conférences ouvertes au grand public ou donnez-vous des séances d'information concernant justement les modifications au patrimoine familial?
J'aimerais ça. Ouais. J'en ai fait une dernièrement en septembre qui visait plus les entrepreneurs dans le domaine agricole. Donc, plus dans le domaine des affaires. Mais oui, il faut informer le public parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont très, très peur. Il y a du monde qui savent même pas. Il y en a qui savent même pas, ils sont mariés, ils savent même pas s'il y a un contrat de mariage. Il y en a plusieurs qui viennent me voir et disent « Hey, je le sais pas, moi, si j'ai signé un contrat,
on dirait qu'on se fie sur des oui-dire, tu sais, on se fie sur ce que, comme nos parents nous ont dit, là, sur ce que t'entends.
On se fie à l'amour.
Oui, beaucoup aussi.
Moi, la mère de mes gars... Elle dit, tu sais, Yann, toi puis moi, on s'entend super bien. Là, on règle nos papiers. Je dis, ben non, on s'entend super bien. On est ensemble jusqu'à la fin de nos jours. On a été régler nos papiers. Puis aujourd'hui, on n'a plus de stress avec
moi,
ça. C'est fait.
Je suis reconnaissante pour mes parents de ça parce que mes parents, en blague, évidemment, m'ont toujours bâti leur relation sur leur séparation. T'sais, ils sont mariés, puis tout aujourd'hui, la vie est belle. Mais dès qu'ils se sont rencontrés, ils notaient tous les gros achats. Ils notaient tout ce qui pouvait être problématique éventuellement. Ils ont bâti leur relation sur leur séparation. Puis je fais pareil. Comme ça, j'ai comme le sentiment que s'il arrive de quoi, regarde, tout est noté, tout est mis, là, on s'est parlé, on n'a pas à débattre.
Mais avec mon rôle d'avocate, tu sais, la relation de couple, c'est comme un peu une entreprise commune. Il faut la gérer comme une entreprise commune. Ouais. Puis lorsqu'on se lance en affaires, on prévoit des conventions d'actionnaires, des choses comme ça. Bien, c'est la même chose pour un couple.
Maître Bornet, ça a été un plaisir de vous avoir. Plein d'auditeurs qui disent que Tabarouette, elle vulgarise super bien.
Mais on va devoir se rejaser à un moment donné. Sérieusement, très bien le monde.
Bien, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Plus qu'on en parle, plus le monde sera informé. Moins de travail. Moins je vais avoir de travail, puis c'est tant mieux.
Voilà. Merci, Maître Bornet. On avait le plaisir de discuter avec Maître Bornet. C'est Maude Bornet qui est avocate en droit familial et en protection de la jeunesse. On parlait du patrimoine familial. Elle est du bureau Gravel Bernier Vaillancourt Avocat.
Marceau le soir.
Vanier Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Je vous parle de mon chum Marc de Passe-temps 3000, tout un homme. Quel athlète, quel individu, quel gars qui fait plaisir à tout le monde tout le temps. Passe-temps 3000 vous fait tout un week-end de magasinage. C'est le retour de la vente surplus d'inventaire, des spéciaux dans tous les départements en magasin. Vous êtes amateur de casse-tête, vous avez quelqu'un dans votre famille qui est amateur de casse-tête. Allez là, ou encore, envoyez-le là. Et ça se peut que vous ayez comme peut-être 2-3 jours avant de retourner le chercher parce qu'il y a du choix là comme pas possible. Donc, c'est 3 jours seulement, je le répète, c'est des spéciaux dans tous les départements du magasin. Vendredi, samedi et dimanche, on parle des jeux de société. Casse-tête comme, je vous disais, jouets, téléguidés, pistes de course, train électrique, modèles à coller et plus encore. Et vous savez, passe-temps 3000, il y a du stock comme pas possible. Il y en a en masse, c'est du jamais vu ou du jamais vu, comme disait l'autre, à cette période de l'année en vente comme ça. Puis en plus, c'est avant Noël. Fait que, en prévision des petits cadeaux de Noël, vous pouvez faire vos achats bien avant. Faut en profiter absolument pour faire vos achats de fête. Ça doit partir. Passe-temps 3000. En passant, il y a des spéciaux jusqu'à 60 %. 60 %. On ne devrait pas le dire si fort que ça, mais c'est 60 %. Voilà. Et aussi, en plus, on vous donne une carte cadeau de 10 $ pour votre prochaine visite chez Passe-temps 3000. Donc, 60 % plus 10 $ ça vaut vraiment la peine. C'est où Passe-temps 3000? C'est au 445 rue Soumande. Vous voulez plus d'informations? Passe-temps3000.com.
Pour chaque examen de la vue...
On a 11h05 minutes. Un peu fessé, j'ai Pedro Pascal en studio.
Hey, c'est capoté, ben regarde, allez sur le Twitch.
J'ai Pedro Pascal en studio. Non, et quand notre invité est rentré, j'ai dit, Colin, il ressemble donc bien à l'acteur. Je me rappelais pas de son nom, mais c'est l'acteur qui a joué dans Narcos avec la petite moustache.
Ouais, non, mais c'est... non, mais ils disent qu'on a un sosie dans l'univers et définitivement notre invité d'aujourd'hui, Olicien, qui est un acteur assez populaire.
En fait, il aurait pu faire le cascadeur de Pedro Pascal.
100%.
Les scènes de combat et tout ça, là, quand ça
les
va super
doublons,
vite.
Là. Ouais.
Tu t'en rends pas compte.
Mais peut-être que c'est un futur travail pour Yannick Dufresne, mais en ce moment, il travaille comme professeur à l'Université Laval et il a l'air heureux.
Ben oui, il a de l'air très, très, très heureux, effectivement. Pourquoi on reçoit M. Dufresne, c'est... il est le cofondateur de Data Gotchi. Toi, tu m'as fait faire ça ce matin.
Oui.
J'ai pas réussi à passer au travers. Je cherchais mon code postal américain.
Oui, c'est plus dur à trouver qu'on me dit.
Mais toi, t'as rentré 1, 2, 3, 4, 5. T'as réussi à le faire du début jusqu'à la fin.
Je me suis pas cassé la tête pendant tout. Le Data Gotchi, vous en avez certainement entendu parler il y a 2 ans pour les élections provinciales, en fait.
Oui.
C'était sorti. On en avait parlé beaucoup. C'était super le fun à faire. Puis bien là, ils reviennent en fait avec une version pour les élections américaines qui sont en passant officiellement aujourd'hui. Là. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est un peu différent quand même, mais je trouve que c'est une manière plus sociale d'aborder les élections parce que avec le Data Gotchi, ce qu'on dit en gros, c'est que le contenu, mettons, de ton panier d'épicerie peut en dire beaucoup sur tes affiliations politiques, les films que tu vas regarder, probablement, j'imagine, les sports que tu joues, ce que tu conduis ou le mode de transport que tu prends au quotidien, bref, peut affecter les affiliations politiques que tu as. Je trouve ça franchement intéressant, puis c'est de ça qu'on jase aujourd'hui.
Yannick Dufresne, salut!
Bonjour.
Comment vous avez eu idée de faire cette application-là?
En gros, je suis un des fondateurs aussi de la boussole électorale, que
oui.
Je pense que les gens connaissent à
Radio-Canada.
Qui fonctionne
très bien à Radio-Canada.
Exactement. Mais les gens, souvent, en faisant ça, la boussole électorale, en fait, vise pas à prédire ton vote, vise à te montrer où est-ce que tu te situes dans l'environnement politique par rapport
les
à
programmes.
Ce que... Mais exactement. Mais la littérature, moi, je suis politologue, la littérature montre que les gens votent pas nécessairement sur les enjeux. Tu sais, votent. Il y a un aspect très social. Donc, je disais souvent aux gens, mais mon but, c'était pas de vous prédire. Si je voulais vous prédire, peut-être que j'aurais même pas une seule question sur vos enjeux à vous poser, puis je serais capable de prédire votre vote. Puis c'est de là à germer l'idée de Data Gotchi.
C'est quand même triste quand tu y penses, par exemple.
De...
ben que tu peux prédire un vote en posant pas une question sur les programmes qui intéressent.
Non, on en parle souvent avec Denis Gravel dans le Pit Stop. T'sais, les gens ne votent pas nécessairement pour les programmes des différents partis.
Mais non, je connais même pas les partis de Kamala Harris et Donald Trump. Je suis bien honnête avec toi. Je connais pas les détails pantoute. Et pourtant, j'ai pas un bon feeling pour Trump. Mais j'ai même de la misère à t'expliquer pourquoi.
Ouais. C'est... Puis ce qui est encore plus weird, mettons qu'on embarque là-dedans, c'est qu'au niveau de la politique d'immigration... Mm-hmm. Au niveau de l'économie, il est semblable à peu près, à beaucoup d'exceptions près, là, au Parti québécois.
Ouais.
Fait que les gens qui trippent sur le Parti québécois se disent, attends un peu, là, Donald Trump,
c'est
moi, je suis pas capable, mais tu peux partager certains intérêts dans son programme.
Ouais.
Ce qui est un peu hallucinant. Moi, la boussole électorale, j'avais trouvé ça formidable quand vous l'avez mis en place parce que les questions que vous posiez, c'est des questions qui étaient pertinentes, qui faisait en sorte qu'en bout de ligne, tu pouvais peut-être avoir une surprise. OK, ben finalement, je suis plus libéral que je pensais. Mmh. Ou finalement, je suis plus Coalition Avenir Québec ou Parti conservateur, t'sais.
Mais je trouve que quand on parle d'élections puis de politique, souvent, je vais faire le comparatif des réseaux sociaux, mais tout est une question d'image puis de projection. Fait que c'est vraiment plate, mais il y a beaucoup de monde qui vont voter sans même avoir consulté les programmes électoraux que tu retrouves sur ces internets-là. Mmh.
Non, c'est ça, puis c'était l'idée un peu. La boussole électorale avait un aspect normatif où est-ce qu'on disait, bien, il faut que les gens... regarde ça. Il faut avec un F majuscule. On pense que dans une démocratie, les gens doivent savoir les plateformes minimalement, puis c'est un outil d'éducation. Mais en même temps, Data Gaucher est un outil d'éducation aussi. Tout à l'heure, tu disais que c'était peut-être triste, mais peut-être c'est de faire réaliser aux gens qu'on a un aspect très... On est socialisé d'une certaine façon, puis les gens votent en bloc. Puis il ne faut pas oublier dans Data Gaucher, je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à là, mais à la fin, il y a comme une place que vous pouvez jouer avec les différentes variables. Que là, c'est de comprendre l'autre aussi. Toute chose étant égale à soi. Tu sais, souvent, en science, on va dire toute chose étant égale par ailleurs, mais là, toute chose étant égale à soi. Oui. Je me mets afro-américain, je me mets comme femme. On voit le changement sur le vote. Donc, ça fait quand même réfléchir.
Ah, c'est vraiment intéressant. Peux-tu, pour les gens qui n'ont aucune idée, qui ne l'ont pas consulté encore, là, peut-être nous expliquer comment ça marche. Là. Premièrement, si vous avez le temps en ce moment, puis vous tapez sur Google Data Gaucher, vous allez tomber déçu. Là. Mais mettons qu'on parle au monde en char.
un défi de développement qu'on s'était donné, c'était qu'on voulait faire le premier sondage. Totalement illustré. Donc, à la bulle électorale, souvent, on posait toutes les questions, 30 questions, puis là, c'est la surprise, on arrive avec le bonbon à la fin, puis on voit notre résultat. Moi, j'avais vraiment en tête, je me disais, il me semble que j'aimerais ça qu'il y ait un petit bonhomme, qu'on se construise. Donc, c'est un avatar. On construit tout simplement un avatar, puis donc, c'est un sondage, mais à la fois, on voit qu'on est capable de personnaliser notre environnement. Puis là, les gens répondent à une vingtaine de questions, puis ils construisent leur avatar, puis à la fin, on prédit le vote.
Okay. Oh, c'est vraiment bien fait.
Mais est-ce qu'on peut prédire, parce que dans vos questions, des questions qui sont très particulières, là, mais puis je pense que la première question m'avait fait bien rire, est-ce qu'on peut prédire le vote en sachant qu'est-ce que tu manges? T'sais, si tu manges la pizza, c'est des questions que vous posez, là.
Oui, oui. Non, mais c'est ça. Puis comment on développe? Premièrement, une littérature complète. Une des co-créatrices, c'est Catherine Ouellette, professeure à l'Université de Montréal. Elle a fait sa thèse de doctorat sur tout l'aspect théorique derrière l'outil. Donc, il y a vraiment... puis souvent, c'est des corrélations. Là. C'est certain que c'est pas comme un médicament qu'on commence à dire, comme disons au Canada, on voyait que les gens qui buvaient du Tim Hortons étaient comme plus conservateurs. Je commence à donner du Tim Hortons sur le campus de l'Université Laval. Je pense pas que c'est une bonne façon de changer les gens et les convaincre de voter conservateur.
Ça va faire des heureux, mais je pense pas.
Mais c'est une corrélation. Mais quand on y pense, c'est ça dans tout. C'est quand on dit que en ce moment, c'est l'élection américaine aujourd'hui, on dit que les femmes votent moins pour Trump. Mais c'est pas l'estrogène là, qui fait ça. C'est que c'est une socialisation, c'est un bloc, ça vient de quelque part. Il y a une histoire derrière ça. Les Afro-Américains votaient républicains jusque dans les années 60, où est-ce qu'il y a eu le mouvement des droits civiques.
Ouais.
Puis là, mais il y a une raison du pourquoi c'est pas nécessairement l'accumulation de la peau qui fait la job là, d'une certaine façon. Puis que oui, après ça, quand on décide d'aller, disons, sur la musique, si on écoute de l'opéra, versus ce qu'on écoute du punk rock, mais ça dit quelque chose sur d'où est-ce qu'on provient.
Okay. L'opéra pourrait dire on est un peu plus à gauche?
Bien, sûrement, dépendamment des contextes, mais oui, mais on convient d'une autre classe sociale. C'est souvent des marqueurs de classe sociale.
Ah. Puis pour ce qui est du café, là, tu parlais du café Tim Hortons, ceux qui vont chez Starbucks, mettons, un pain chaud qui va chez Starbucks, moi je vais chez Tim Hortons, on pourrait avoir deux allégeances politiques différentes.
Mais il y a un lien, puis il ne faut pas oublier non plus que Data Gaucher s'ancre quand même dans un cadre de marketing politique.
Ouais.
On le sait que les partis politiques font exactement ça. C'était aussi une des motivations de développer cet outil-là, faire réaliser aux gens à quel point les variables personnelles comme ça, ils ont une valeur. Les partis politiques font une segmentation. Puis l'exemple que tu viens de donner est excellent, parce qu'en 2006, Stephen Harper avait fait une segmentation. Là, c'est très connu. T'sais, Patrick Mottard, c'est un de ses stratèges, il a fait une segmentation de l'électorat, puis il avait découvert une Zoé. Il donnait les noms. Puis la Zoé prenait son Starbucks, puis un café avec plein de crème sucrée, plein de trucs comme ça. Mais celle-là, il se disait, bon, OK, on va aller voir où est-ce qu'elle prend son information politique. On ne dépensera pas une scène en publicité, parce que celle-là, on ne l'aura jamais. C'est comme vraiment une façon de pouvoir, comment je dirais ça, situer, localiser où est-ce que les personnes sont socialement.
OK. Puis les personnes qui ont fait le Data Gaucher, ils t'ont dit quoi exactement? Est-ce que vous êtes arrivé target?
Mais pas toujours. Puis ça, c'est intéressant comme sur le développement. On commence tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question, comment on développe ça? On fait des sondages très traditionnels au départ avec des centaines de questions. On y va un peu avec la théorie, justement. Il y a un livre académique qui est écrit « Prius or Pickup » sur les gens qui choisissent, on donne le choix entre Prius or Pickup. Tout ce livre-là, un livre complet là, sur pourquoi est-ce que ça, on peut prédire le vote par rapport à ça.
Tu as choisi quoi, Yann? J'ai choisi Pickup.
Je l'ai pas passé.
T'as pas pensé jusqu'à cette question-là?
Je voulais pas. J'ai essayé de rentrer mon.
Ton code postal.
Ton code postal. Puis là, je t'entendais parler en arrière. T'as dit 90210 comme Beverly Hills. Puis là, je me suis dit, regarde, il me reste 5 minutes. Là, j'ai pas le temps. Faut que je me concentre sur mes entrevues. Fait que je vais le faire après l'émission, c'est sûr. Je vais aller faire le Data Gaucher. J'ai fait les premières questions. Là. Je trouvais ça intéressant. Mais c'est sûr que j'ai hâte de voir le résultat.
Moi,
j'avais été surpris que la boussole électorale.
Ah, mais ça, c'est hot.
La boussole électorale m'avait surpris. Je me disais, OK, finalement, je pensais que j'étais plus de ce bord-là. Puis je suis plus de ce bord-là.
En passant, il y a un beau côté nostalgique, je trouve, là, années 90. Si vous avez connu les Tamagotchi, moi, j'étais accro à ça comme pas possible. C'est inspiré de ça, si je me trompe pas. Là, c'est peut-être dans ma tête.
C'est une petite anecdote quand même assez amusante. C'est qu'au départ, on travaillait sur un projet, puis on l'avait appelé Build a Voter. Parce que j'avais l'idée de Build a Bear aux États-Unis, où tu construis ton ours en plus. Donc, ça venait de là. Mais là, évidemment, comment on traduit ça? Puis là, je voulais que ce soit dans différentes langues, parce que là, on va le développer dans d'autres pays aussi. Puis là, je me disais, OK, j'aimerais ça un nom. Puis là, j'en parlais avec mon illustrateur. L'illustrateur Mathieu Fortin, qui est excellent, c'est lui qui a fait le pixel art. Moi, je voulais quelque chose de low-fi, justement, pour justement dessiner l'ensemble des trucs comme ça. On voulait aller au pixel près. Puis j'ai dit, je voyais comme un Tamagotchi, tu sais, qu'on nourrit, puis on construit notre avatar. Puis j'ai dit, bien, pourquoi pas Datagotchi, puis c'est sorti comme
c'est
ça.
Écœurant.
C'est resté, puis ça se dit bien en anglais, ça se dit bien en français, puis dans d'autres langues.
Ouais. Tu parlais de la Prius, puis du pick-up.
Mm-hmm.
Je t'ai comme coupé, je me demandais où tu t'en allais avec ça.
Non, je disais seulement qu'on choisit les questions, on disait comment on construit ça, on fait un sondage très traditionnel. Je veux dire, en ce moment même, on est à partenariat avec Jean-Marc Léger, avec la firme Léger. On fait des sondages très traditionnels, on fait une centaine de questions, puis on choisit celles qui prédisent le mieux. Puis on essaie de faire des segmentations avec ça, puis c'est vraiment comme ça qu'on choisit les questions. Mais après ça, on voit des patterns. Puis c'est certain que là, mes collègues, souvent, ils vont dire, oui, mais c'est un problème d'inférence causale. Est-ce que c'est vraiment ça qui cause, comme je parlais tout à l'heure avec le Tim Horton? C'est sûr que non, mais par contre, ça identifie un individu. Après ça, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça a un effet? Pourquoi est-ce que ça a un effet? Puis c'est souvent des marqueurs de classe sociale. Là.
Vous l'avez fait il y a 2 ans. Deux ans plus tard, on a la version américaine. Est-ce que vous avez amélioré des affaires? Comment vous travaillez sur cette application-là constamment?
Bon, on travaille constamment. D'ailleurs, on est à une firme qui est votre voisin ici, là, Unicorn, qui nous aide beaucoup à travailler tout l'aspect sécurité des données. Vous imaginez, là, on va chercher des trucs assez sensibles. Donc, c'est important de toujours, toujours travailler tout ce qu'on ne voit pas. Mais dans ce qu'on voit, on s'amuse énormément. Là. Quand on choisit différentes questions, on va dire comment on l'illustre? Parce qu'il ne faut pas oublier, chacune des questions est illustrée. Donc, des fois, c'est assez simple. Si on parle, si vous aimez le curry, ben bon, on peut dessiner ça. Mais d'autres fois, quand c'est la langue ou des trucs comme ça, c'est un peu plus difficile. Donc là, on fait vraiment des brainstorms avec des artistes.
Ouais, vous essayez de mettre le Datagotchi dans d'autres pays aussi?
Oui.
Là, il va falloir adapter aussi. Il n'y a pas des Tim Hortons partout?
Non. C'est pour ça que moi, j'adore ça. Souvent, je me vois comme un sociologue politique. Là. J'aime aller dans la culture. J'aime beaucoup la culture. J'ai passé mon année sabbatique l'an passé, la moitié de l'année en France. Mais ça, OK, je pense que ça va être facile à adapter. Mais au Japon aussi. Donc, j'étais à l'Université de Tokyo. Puis là, on est en train de travailler à développer un Datagotchi au Japon. Puis ça va être comment autre. C'est un des clivages principaux au Japon, mais c'est pro-occidental ou l'aspect militaire.
Ouais.
Donc, tu sais, les gens qui trippent sur le café plutôt que le thé, mais ça peut peut-être nous dire quelque chose. C'est qu'un truc plus occidental versus un truc plus traditionnel. Ouais. Mais là, en ce moment, on a eu aussi une subvention pour le faire en Indonésie, en Tunisie et au Sénégal. Donc, 3 pays musulmans, mais vraiment différents culturellement. Donc, c'est d'aller voir c'est quoi les variables culturelles qui peuvent avoir un impact sur la politique là-bas.
Okay. Quand vous dites on a eu des subventions pour faire ça dans ces autres pays-là, ces subventions-là viennent de où? Du gouvernement canadien?
Oui. Mais tu sais, comme chercheur, on a accès à des différentes subventions provenant d'organismes subventionnaires qui financent la recherche. C'est certain qu'il faut toujours faire la démonstration qu'on apporte quelque chose de nouveau, qu'on développe de la connaissance. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup étiqueter Datagotchi comme de la science participative. C'est amusant, oui, mais à la fin, on collecte des données, puis nous, après ça, c'est de transférer, vu qu'on est dans le monde académique, universitaire, c'est de transférer ces informations-là aussi, puis de dire, regardez qu'est-ce qu'on trouve, puis que voilà, vous voulez jouer vous-même, c'est la démocratisation de l'analyse de données. Quand vous allez derrière puis à la fin, vous changez votre personnage. C'est un modèle complexe statistique qui est derrière. Là. Donc, vous pouvez le faire sans même connaître une ligne de code pour savoir comment faire cette analyse-là, mais c'est à votre disposition.
Oui, parce que j'allais demander c'est quoi le but au final un peu, dans le sens que c'est super divertissant, ça te dirige un peu, même un peu sur toi, t'en apprends, mais je me demandais justement c'était quoi le but pour vous un coup que tout ça est installé. Fait que c'est tout le temps des données, là.
Mais ça, pour les chercheurs, c'est certain que c'est les données. Après, mais c'est de transférer, qu'est-ce qu'on appelle la transfert de connaissances, donc c'est vous permettre aussi de jouer avec ces modèles-là. Puis moi, j'aime bien l'idée aussi que c'est peut-être un outil de dépolarisation, que ça nous permet aussi de comprendre l'autre avec un A majuscule. Mmh. C'est souvent les outils, puis je viens d'acheter un Apple Watch, je le vois, là, c'est vraiment très égocentrisant. Puis là, finalement, on répond pour nous, on a un bonbon pour nous, comme la boussole électorale, mais à la fin, on peut jouer puis essayer de découvrir l'autre. parce que l'autre, c'est pas nécessairement un ennemi. Il pense différemment, mais c'est pas nécessairement un ennemi. Puis essayer de comprendre l'autre, je pense que c'est une des solutions. On est dans un contexte américain où c'est hyper polarisé, mais je pense que ces gens-là commencent à se parler d'un peu plus, puis commencent à comprendre un peu plus l'autre, mais on va peut-être avoir une meilleure société.
T'as-tu l'impression que c'est un outil de destruction massive pour un parti politique qui se doterait de ce genre d'appareil-là?
Pas tant, parce qu'ils le font déjà. T'sais, ils le font déjà. Ils n'ont peut-être pas la quantité de données qu'on collecte.
Aussi ciblé, moi, j'ai jamais vu ça.
Mais il ne faut pas oublier que c'est démocratisé. Donc, moi, c'est ça que j'aime. L'idée, c'est que vous pouvez très bien vous répondre pour vous, mais à la fin, dans le simulateur, vous pouvez construire vos propres profils. Donc, c'est démocratisé. Mm-hmm. Moi, c'était une des motivations même de construire cet outil-là. Je me dis, les compagnies, quand vous vous faites cibler, là, les compagnies ont accès à des modèles comme ça pour pouvoir vous prédire. Quand vous allez sur Facebook ou Instagram, puis que vous voyez
des publicités. On lâche des sondages de temps en temps dans l'univers.
C'est ça, exactement. Puis après, on fait de la segmentation. C'est très très répandu dans le monde commercial par les partis politiques. Mais pourquoi est-ce que les citoyens, eux, n'ont pas accès à ça? Mais là, avec un outil comme ça, on leur donne accès à ça aussi.
Honnêtement, c'est divertissant. J'ai même le goût de dire attachant. La plateforme est super le fun. C'est super bien fait. C'est intelligent. Datagotchi.com. Vous irez le tester. C'est le fun pour vrai. Puis c'est vrai que ça dirige. Moi, j'en ai appris un peu sur moi. J'ai aimé ça, les données. J'ai même été surprise. Puis c'est pas tout un, tout l'autre. Hein. C'est pas républicain-démocrate dans ce cas-ci. Il y a des pourcentages. Fait que non, j'ai vraiment aimé l'expérience pour vrai.
Le Japon, ça devait être un autre monde aussi, là.
Bien, c'est un autre monde, complètement. Puis je dis, comme il faut juste penser même pour le développement, les caractères, tout ça, tu sais, il y a beaucoup de défis esthétiques, mais c'est pour ça que je suis chercheur, j'aime les défis.
Ah, c'est le fun, c'est le fun. Bon, on aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Yannick Dufresne.
Merci beaucoup de votre invitation.
Audrey, on se laisse là-dessus.
Ben oui, c'est ça, je regardais l'heure.
Ta journée est déjà finie, toi.
Ben oui, on se retrouve demain.
On se retrouve demain.
Allez, là.
À 10h. Allez. Pascal CV s'en vient dans les prochaines minutes. Pour l'instant, les Cowboys fringants avec l'Amérique pleure sur Boulevard.